Au moment où nous allons ouvrir la Bible pour y entendre deux textes qui nourriront notre méditation ce matin. Tout d'abord, un texte issu de l'Évangile selon Matthieu, un évangile que nous allons traverser mois après mois avec les enfants de l'école du dimanche. Après avoir fréquenté le début de la Genèse, ce trimestre qui s'ouvre est l'occasion de fréquenter l'Évangile selon Matthieu. Et après cette lecture que l'on trouve au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, nous irons fréquenter un texte qui est dans la même veine littéraire, l'épître de Jacques, une épître dont Martin Luther disait qu'elle était de paille, une épître qui ne lui plaisait pas beaucoup parce qu'il y est question d'œuvre et que Martin Luther insistait plutôt sur le rôle éminent de la grâce, de la foi. Alors, tout d'abord, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 16, que vous pouvez entendre comme une exhortation qui vous est adressée à vous-même, bien entendu. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre seule sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire celles et ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, en écho à ces paroles qui ouvrent le sermon de Jésus sur la colline près du lac de Tibériade, dans l'épître de Jacques, certains disent d'ailleurs, c'est une hypothèse d'exégète, que Matthieu serait le scribe de Jacques. Jacques qui fut à un moment donné chef de la communauté de Jérusalem. Toujours est-il que dans le chapitre 2 du livre de Jacques, nous lisons ceci. Mes frères, que sert-il de dire auprès de quelqu'un qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils frissonnent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite ? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Seigneur, ta parole est la vérité. Alors, de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, au numéro 183, nous pourrons nous mettre à l'écoute de Dieu en chantant les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 183 qui sera un début de prière avant notre méditation. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne dans nos cœurs nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre.
Thank you.
Chers frères et sœurs, chers catéchumènes, en période de crise, chacun ressent un fort besoin de sécurité, se protéger face à ce qui nous menace. Chacun cherche à ne pas trop perdre dans l'histoire, ne pas perdre un A de plus, ça suffit comme ça. Chacun, parce que si on perd son A après le B.A.B.A., on n'en a plus entendu parler. Chacun cherche à préserver ses acquis, chacun cherche à se préserver, à ne pas disparaître corps et biens dans la mêlée. Et pour le coup, le religieux peut apparaître comme un recours. Parce que le fait d'être croyant est souvent assimilé au fait d'être préservé des difficultés, comme si la vie croyante permettait de vivre un long fleuve tranquille. Toujours est-il que bien souvent, certains voudraient être croyants de façon à ne pas bénéficier des affres de la vie, en quelque sorte, obtenir une plus grande stabilité dans la vie. Et la foi serait du coup une sorte de valeur refuge. Ce désir de sécurité qu'inspire la foi, qu'inspire le religieux, se traduit par deux attitudes qui sont deux lignes de défense assez visibles. Tout d'abord, le protectionnisme et deuxièmement, l'intégrisme. Et ces deux attitudes sont, me semble-t-il, deux attitudes qui sont récusées dans l'épître de Jacques. Jacques qui nous met en garde contre certains usages pernicieux de la religion. La première manière de se protéger est donc de se protéger aux frontières, de faire preuve de protectionnisme, d'endosser une carapace qui nous préservera des risques externes. On arrête les échanges car l'extérieur présente une menace potentielle. On déroule les fils barbelés sur notre prairie, on se pare d'un cœur de pierre, on se blinde, on s'insensibilise vis-à-vis de l'extérieur. En quelque sorte, c'est comme si la religion, la foi, était l'occasion de créer un cocon au sein duquel on pressent que rien ne pourra nous arriver. Comme si la foi nous permettait d'éviter tout ce qui risque de nous agresser. Une sorte d'abri dans lequel on peut se calfeutrer. Et on n'entend même plus la clameur de l'extérieur. On n'entend même plus les vibrations de la vie. Ce repli sur soi est destiné à se défendre des agressions qui pourraient nous ôter nos richesses, notre identité aussi, ou dans une moindre mesure qui pourrait nous égratigner. Comment rester indemne en se calfeutrant derrière une frontière étanche ? On dresse des barrières douanières aussi infranchissables que possible pour assurer la paix intérieure. Seulement voilà, les prophètes de la Bible hébraïque déjà critiquaient cette attitude bien illusoire qui consiste à se mettre à l'abri de forteresses figées, statiques et donc mortes, qui s'écroulent déjà ou qui rompent devant la pression externe. Le prophète Ésaïe, par exemple, raillait la confiance dans les murs bien avant que l'on découvre que se cacher derrière une ligne Maginot pouvait relever de la mascarade. Et cela vaut pour la plupart des défenses que l'on met en place, qu'elles soient matérielles, donc toutes les sécurités que vous pouvez mettre, qu'elles soient juridiques, comme si plus de lois nous prémunissait de toutes les agressions externes, qu'elles soient incantatoires, comme s'il suffisait de prier à tout bout de champ pour que rien de fâcheux n'arrive, ou psychiques, en devenant insensibles au monde extérieur, en se carapatant, en se mettant dans notre carapace de tortue, en faisant comme si rien ne se passait en dehors de nous. Eh bien, se terrer derrière une ligne de défense, c'est s'enterrer vivant. Rahab, la prostituée dont il est question dans le livre de Josué, l'avait bien compris, elle qui ne fit pas de protectionnisme. Chez Rahab, la foi qui ne dit pas encore son nom lui suggère d'ouvrir sa porte aux explorateurs venus observer Jéricho avant que le peuple hébreu s'installe en terre promise. Si Rahab n'avait pas ouvert sa porte, si elle n'avait pas ouvert sa connaissance de la ville, si elle n'avait pas, après, fait cette déclaration de foi qui manifestait que ce qui bouillonnait en elle trouvait un écho à l'extérieur, si elle n'avait pas ouvert sa porte, si elle avait maintenu sa maison close, elle aurait mis un terme à sa propre histoire. Mais voilà, Rahab s'ouvre et Rahab devient l'une des grands-mères de Jésus. Et Jacques, quant à lui, nous rend attentif au fait que la foi en l'Éternel n'est certainement pas le fait d'être insensible au sort des autres, ni d'adopter une éthique en forme de « allez vous faire voir », qui est une autre traduction possible de la formule liturgique « allez en paix », ce qui est une façon de se laver les mains à bon marché. Allez en paix. Autrement dit, si nous pensons que la foi, c'est ce qui permet d'être impassible, de ne pas se préoccuper du réchauffement climatique, de ne pas s'intéresser aux questions de société, de ne pas s'intéresser évidemment au sort des autres, eh bien nous faisons fausse route, nous dit Jacques. Dans ce cas, nous ne sommes pas croyants au sens biblique du terme. Outre cette première ligne de défense, il y a aussi la deuxième ligne de défense, au cas où celle-ci vienne à rompre. Et la deuxième manière de se défendre en cas de crise, c'est de se renforcer à l'intérieur, devenir dur, dense. Le sociologue David Martin, dans les années 80, avait relevé à quel point les périodes d'incertitude conduisent des personnes à se plonger dans l'intégrisme pour défendre leur identité. Et après tout, on comprend bien que l'intégrisme peut donner l'impression d'être un bon moyen de préserver son intégrité, de ne pas être blessé, de ne pas être rogné dans ce qui nous est important, cher. L'intégrisme, cela consiste tout d'abord à revenir aux fondamentaux et à renforcer les idéologies, à durcir la doctrine, pour le dire avec des termes religieux. Autrement dit, à être à cheval sur les principes. Toujours dans une perspective religieuse, durcir la doctrine, cela revient à mettre en place une orthodoxie, c'est-à-dire une manière droite de dire les choses, une manière que l'on estime conforme à la vérité et qui laisse entendre qu'en dehors de cette façon de dire les choses, en dehors de cette façon de penser, eh bien on est dans l'erreur. Détenir la vérité tout en majuscule, contre les incertitudes du lendemain. Voilà l'espoir que nourrissent les intégristes. Avoir quelque chose de suffisamment solide en soi pour s'y accrocher quand tout nous ballotte autour de nous. Abraham, fort heureusement, pour son fils Isaac, n'est pas devenu un intégriste, sans quoi il n'aurait pas écouté le messager divin qui lui demandait d'épargner son fils finalement, et il l'aurait sacrifié comme un bon intégriste, l'intégriste faisant toujours la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. L'intégriste considère que l'important est de conserver la pureté de l'idéologie, que rien ne doit souiller l'intérieur, que la foi, c'est d'avoir le bon discours sur Dieu. Eh bien, à l'intégriste, Jacques rétorque: tu crois qu'il y a un seul Dieu, ce qui est en quelque sorte le point de départ de tout bon catéchisme. D'accord, mais les démons aussi le croient. Et ils frissonnent. C'est dans le texte. Autrement dit, Tu peux être un catéchumène qui sait tout sur Calvin et Martin Luther King, qui sait ce qu'est l'ascèse intramondaine développée par Max Weber, qui maîtrise les subtilités de l'eschatologie proleptique. Si tu te contentes de cela, tu ne vaux pas mieux que les démons qui, eux aussi, en savent un rayon en théologie. Pour nous résumer, on peut penser que pour être un bon croyant, il s'agit d'être à l'image d'un verre qui établit une séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Et qu'en se mettant à l'intérieur, on va pouvoir se protéger de l'extérieur. Que l'on va pouvoir éviter toutes ces agressions qui risquent de nous menacer. Et on se met dans une citadelle assez haute pour ne pas se laisser submerger par les soucis du quotidien. Et si besoin est, on gagne un peu en stabilité en creusant un fossé autour de nous, de façon à limiter, à repousser le plus loin possible les menaces qui pèsent sur nous. Ça, c'est pour la partie protectionnisme. Mais l'intégriste, lui, va puiser dans la théologie pure jus et se remplir jusqu'à ras-bord de la doctrine pure, impeccable, irréprochable, pour ne laisser aucune prise à tout ce qui n'est pas lui. Voilà. Ça tremble quand même un peu. Voyez, effectivement, ça semble stable. Les frémissements viennent de moi, peut-être comme les démons. Ça semble stable, mais à vrai dire, c'est mort. Plus rien ne va évoluer. Certes, on gagne en stabilité, mais on ne gagne pas en vie. Si, dans quelques jours, ce verre est laissé en l'état, eh bien, c'est notre sacristain qui va commencer à râler, parce que ça va commencer à sentir le moisi. Voilà, la vie voulu par Dieu, la vie croyante, ne consiste pas simplement en un protectionnisme et en un intégrisme. Vous l'avez entendu dans l'Évangile selon Matthieu, c'est la prédication de Jésus. Vous n'êtes pas simplement la lumière du monde, vous êtes aussi le sel de la terre. Bien soit. Si nous sommes le sel de la terre, faisons-en quelque chose. Mais oui, la foi véritable, c'est de ne pas rester enfermé dans notre salière. La foi véritable, c'est ce qui va nous permettre de sortir de ces lieux dans lesquels nous nous enfermons. La foi véritable, c'est cet élan, c'est cet enthousiasme que Dieu suscite en nous et qui va nous permettre de sortir de ces barrières derrière lesquelles nous nous retranchons. Si nous sommes appelés à être le sel de la terre, ce n'est pas en restant enfermés dans notre salière, confortable, que nous pourrons répondre à l'appel de Dieu, bien évidemment. Cette foi, c'est une sorte de supplément de vie que Dieu injecte dans notre vie. C'est comme si Dieu ajoutait de la vie à notre vie, comme s'il nous empêchait de nous en tenir à cet état naturel dans lequel nous sommes, un état un peu plan-plan, les bras croisés, bien posés sur notre siège, comme si la foi était ce qui fait déborder la vie du croyant, la foi comme si c'était ce quelque chose que Dieu injecte en nous et qui fait que nous sommes plus grands que notre corps, que nous sommes plus grands que notre histoire personnelle, que nous sommes plus grands que nos rêves, plus grands aussi que ce que nos parents projettent sur nous-mêmes. La foi, c'est ce que Dieu injecte en nous pour nous donner le goût de l'au-delà, Ce que Jacques essaie de nous faire comprendre, c'est que la foi, c'est ce qui nous pousse à sortir de la vie ordinaire, ce qui nous pousse à fréquenter des chemins dont nous n'aurions pas eu l'idée tout seul. La foi, c'est ce qui nous pousse à l'action, c'est ce qui nous relève, c'est ce qui nous met en marche, c'est ce qui nous fait avancer un pas de plus en direction des autres. La foi, ce n'est pas ce qui nous permet de nous carapater ou de nous refermer sur nous-mêmes pour nous préserver des autres. La foi, c'est ce qui nous pousse vers les autres, parce que notre force n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur. La foi conduit à l'effervescence et non à la platitude. Voilà pourquoi Jacques dit que le corps sans esprit est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte. Voilà pourquoi le christianisme ne pourra jamais être une religion de salon. Voilà pourquoi le temps du culte n'est qu'un temps dans notre vie chrétienne. Le christianisme se vit nécessairement dans l'action, dans l'engagement pour les autres. Et dans la perspective de Jacques, on ne peut pas être croyant et non pratiquant. Ce serait contradictoire. Jacques écrit que la foi et les œuvres agissent ensemble. Il utilise le verbe grec « synergein », qui a donné en français « synergie ». Les deux sont unis dans une même dynamique. Il n'y a pas d'un côté la foi, la vie spirituelle, le catéchisme, les belles prières, les prédications enflammées, et puis de l'autre les actes, le service du prochain, la charité, l'altruisme. Les œuvres découlent naturellement de la foi. Elles sont le fruit produit par cette sève qui lance nos branches loin de nous, un peu plus loin à chaque saison, et produit des fruits savoureux. De même que le sel, s'il perd son goût, c'est-à-dire s'il n'est plus en mesure d'interagir ce avec quoi il est en contact, est juste bon à être jeté. De même, la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, si elle n'est pas agissante, si elle ne va pas vers les autres, si elle ne construit pas, si elle n'édifie pas, si elle ne transforme pas le monde, devient un encombrant dont il vaut mieux se débarrasser. Du sel sans saveur n'est plus du sel. De même que la foi qui ne transformerait plus le monde, qui cesserait de le rendre plus vivable, plus agréable, ne serait plus la foi. La foi qui serait un dogme intégriste, sans être en interaction avec la vie quotidienne, ne serait plus la foi. Une lumière qui serait cachée sous un boisseau ne serait plus une lumière. Une lumière qui n'éclaire pas, ce n'est pas une lumière. De même que la foi qui servirait à se tenir à distance du monde, à nous isoler pour nous protéger, ne serait plus la foi. La foi qui ne serait qu'une posture protectionniste ne serait plus la foi. La foi nous expose au grand jour, à tous les sens du terme. La foi nous expose, elle nous fait œuvrer, elle nous fait agir au cœur du monde, indiquant en cela la passion que les croyants ont pour le monde, pour les affaires du monde, pour tout ce qui concerne le monde. Les œuvres sont le signe d'une passion. Et ce qui est vrai dans la vie quotidienne l'est, par exemple, dans une vie conjugale, dans une vie amoureuse. Peut-on imaginer que quelqu'un dise à son conjoint « Oui, je t'aime », mais ne lui témoigne jamais aucune marque d'affection ? Qu'il n'y ait pas des yeux pétillants lorsqu'il parle de son être aimé ? Peut-on aimer son conjoint sans le pratiquer en quelque sorte ? La foi besogne. La foi nous fait retrousser les manches. La foi nous ouvre à notre environnement et les traces que nous laissons dans l'histoire signalent à quel point les croyants sont des êtres passionnés, à défaut d'être toujours passionnants. Ils sont passionnés pas simplement par leur confort, pas simplement par leur standing, ils sont passionnés par les autres. Ils sont serviteurs par essence, par appel, par désir aussi. Ils s'impliquent personnellement dans les affaires de la cité, ils s'impliquent personnellement auprès de leur entourage, Il s'implique personnellement pour se mettre au service de la communauté humaine dans son ensemble. Et c'est bien pour cela, certainement, que des Henri Dunant, des Albert Schweitzer, des Mère Teresa, des Sœurs Emmanuel, des Desmond Tutu ont notre faveur, qui nous inspirent un si grand respect. C'est que nous sentons bien que leur altruisme permet l'accomplissement de leur foi, qu'il y a là quelque chose de juste, oui, juste. On pourrait dire qu'ils sont justifiés par leurs œuvres, non pas par leurs œuvres seules, mais par ces œuvres qui sont nourries par la foi. Car il ne s'agit pas simplement de gesticuler, il ne s'agit pas simplement de faire, mais d'œuvrer. L'œuvre est bien autre chose que simplement faire quelque chose. L'œuvre, c'est accomplir une action qui rend service, qui transforme le monde, qui le rend un peu plus beau. Et à notre mesure, dans notre contexte particulier, nous sommes invités à faire de même. Même dans le cadre d'un devoir de mathématiques. Non pas simplement répondre aux questions qui nous sont posées, mais considérer que le problème qui nous est posé est un problème qui, une fois résolu, ne laissera pas le monde dans l'état où nous l'avons trouvé. Alors, si nous découvrons que la foi, ce n'est pas simplement le fait de voir ce qui est, mais le fait de voir ce qui peut être, de voir au-delà de ce qu'il y a d'immédiat pour nos sens, eh bien alors, cela nous fera agir pour que ce qui peut arriver, arrive effectivement. Et alors, tous ceux qui nous voient, tous ceux qui sont au bénéfice de notre saveur, tous ceux qui sont au bénéfice de notre lumière, tous pourront admirer, au travers de ce que nous ferons et accompliront au service des autres, la foi dont nous sommes animés, cette foi effervescente, cette foi passionnée, et tous, selon le mot de Jésus, pourront glorifier notre Père qui est dans les cieux. Amen.